Chapitre 45. Richard ne se trompait pas. Après quelques minutes, sa compagne et lui se retrouvèrent sur la piste principale. À cet endroit, ce n'était guère qu'un étroit passage à travers une végétation touffue et serrée. Sur le sol, des pierres et des racines déterrées attestaient que ce chemin, rarement emprunté sinon, avait été piétiné par des hordes de demi-humains en quête d'âme. Pour l'heure, un silence total y régnait. Richard tendit l'oreille, cherchant tout bruit qui aurait pu indiquer un problème. Silencieuse, Samantha attendit qu'il énonce son diagnostic.
« Vous m'avez dit que les détenteurs du don peuvent sentir leurs semblables, » souffla-t-elle quand elle fut à bout de patience.
Richard acquiesça.
« Vous croyez pouvoir m'expliquer de quelle façon ça fonctionne, comme pour les arbres? Ainsi, je développerai cette aptitude, en tout cas j'essaierai. »
Richard eut une moue désolée. « J'aimerais pouvoir le faire, mais j'en suis incapable. Tout ce que je sais, c'est que les sorciers et les magiciennes ont ce pouvoir. À part ça, personne ne m'a jamais rien expliqué à ce sujet. Hélas, je ne peux rien pour toi. » Samantha parut déçue de ne pas pouvoir ajouter une nouvelle corde à son arc. Richard lui posa une main sur l'épaule. « Ne t'en fais pas pour ça. Quand nous aurons libéré ta mère, elle t'apprendra. » Samantha sourit.
« Seigneur, vous avez l'air de me réconforter, même dans la pire des situations. »«
Tant qu'on a le choix et l'entier usage de son cerveau, il y a toujours une façon de se sortir de tout. »
Le sourire de la jeune fille s'élargit. Alors qu'il lui souriait aussi, Richard s'inquiéta de voir un tel épuisement sur son visage. Même si elle refusait de l'admettre, ce qu'elle avait fait pour les sauver la laissait vider de ses forces.
Manier l'épée contre les demi-humains m'a épuisé. Et toi, comment vas-tu? Tu dois être très fatigué après ton exploit. En ce qui me concerne, toute utilisation de la magie, même celle de mon arme, consomme énormément d'énergie.
Eh bien, ça m'a un peu secoué, mais je ne vous ralentirai pas, c'est promis.
Richard décrocha son sac de ses épaules et en ouvrit le rabat. Il sortit deux morceaux de viande séchée et en tendit un à Samantha.
« Voilà, mange ça en marchant. Ça t'aidera à reconstituer tes forces. »
Richard mordit dans son morceau et Samantha l'imita. Puis le sourcier remit son sac en place et ils repartirent.
Utiliser la piste était un détestable pis-aller, car c'était un endroit évident pour tendre une embuscade. Confronté à ce type de risque, Richard préférait en principe couper par les bois. Mais quand le temps pressait, cette solution était inapplicable. Rien que pour gagner le mur du Nord, comme l'appelaient les villageois, les deux voyageurs avaient un long chemin devant eux, et la piste s'arrêterait avant qu'ils soient arrivés à destination. Des vies étant en jeu, il était inenvisageable de gaspiller du temps. Cela dit, le choix n'était pas facile. S'ils étaient tués dans une embuscade, Richard et Samantha ne pourraient plus aider personne. En même temps, s'ils arrivaient trop tard... Eh bien, ça signifierait la mort de Callan que le gardien viendrait réclamer. Puis Richard la suivrait de près, et des centaines de milliers d'innocents connaîtraient le même sort. Dans leur message, Magda Cyrus et Merit disaient que Richard avait le pouvoir de sauver le monde des vivants ou de le détruire. S'il commettait une erreur et mourait sur cette piste, ça risquait de provoquer la fin de toute vie, ainsi que le disait la première inquisitrice. Mais suivre un autre chemin pouvait entraîner un retard tout aussi mortel. Une idée acheva de convaincre Richard qu'il avait pris la bonne décision. D'après leur façon de se comporter, ces demi-humains qui chassaient en meute n'étaient pas du genre à laisser une arrière-garde quelque part. Aveuglés par le désir de posséder une âme, ils avaient sans doute attaqué avec toutes leurs forces disponibles. Et s'ils étaient tous morts dans la forêt, les risques d'embuscade devenaient voisins de zéro. Dans ces conditions, l'urgence étant d'avancer le plus vite possible, le choix de la piste s'imposait. Bien sûr, il y avait encore le risque que des demi-humains différents, venus d'une autre région du Troisième Royaume, soient aussi en chasse et surveillent la piste. Une raison de plus d'être vigilant, mais pas suffisante pour changer de plan. Sa décision définitivement arrêtée, Richard accéléra le pas. Ressemblant beaucoup à des sentiers secondaires qu'il connaissait très bien dans les bois de Heartland, cette piste était des plus rudimentaires, mais on y rencontrait quand même moins d'obstacles qu'en progressant dans un entrelac de végétation.
Toutefois, elle n'était pas assez large pour que deux personnes avancent de front. Richard ouvrant la marche, Samantha le suivait, parfois obligé de courir, ou presque, pour ne pas être distancée. Des arbres abattus par le vent coupèrent en quelques occasions le chemin aux deux voyageurs. Ils les escaladèrent, perdant souvent de précieuses minutes. Dans ce qui ressemblait de plus en plus à un tunnel creusé dans la végétation, les branches des arbres et des arbustes cinglaient sans cesse les bras et les jambes du sourcier et de la jeune magicienne. Entre la frondaison très serrée et le ciel plombé, on n'y voyait quasiment pas mieux qu'au crépuscule. Dans le lointain, Richard captait parfois des trilles d'oiseaux ou l'étrange babillage des écureuils. À part ça, un silence de mort régnait sur la forêt. Un léger brouillard se leva et le crachin recommença. Entraînés par la pluie, des aiguilles de pin tombaient des branches, certaines finissant leur chute sur Richard et Samantha. Pour le repas, le sourcier opta pour une pause très brève. Le morceau de viande séchée ayant requinqué sa compagne, il jugea inutile de prévoir une période de repos. Pour ça, il serait toujours temps plus tard. Après une rapide collation, ils repartirent donc et marchèrent tout l'après-midi sans rien apercevoir qui sorte de l'ordinaire. Cette paisible randonnée rappela à Richard l'époque où il était garde forestier. Un temps où il avait connu la paix et la joie sans même imaginer que le monde avait de terribles problèmes. Revenant à ses anciennes amours, il se surprit à étudier les diverses variétés de mousses qui s'accrochaient aux rochers, les faisant parfois ressembler à d'énormes oreillers verts. Ces mêmes mousses poussaient parfois aussi au pied des arbres, leur faisant comme une corolle. De temps en temps, de très jolies petites fleurs blanches venaient agrémenter ces tapis naturels. En un sens, elles ne semblaient pas à leur place lors d'un voyage motivé par l'angoisse et semé de tant de périls. En un autre, elles rappelaient à Richard et à Samantha l'extraordinaire beauté de la vie. Une affaire d'équilibre, une fois encore. Pour protéger ses cheveux de la pluie et des aiguilles de pin, Samantha avait relevé sa capuche et gardé la tête basse en marchant. Sa posture suffisait à mesurer à quel point la jeune fille était fatiguée. Cela dit, elle ne se plaignait pas. Richard se sentit un peu coupable d'imposer un rythme si rapide, mais comment faire autrement? Songeant à sa mère, la jeune magicienne devait être aussi pressée que lui. Quand la nuit tomba, le sourcier s'écarta de la piste afin de trouver un endroit où dormir. Une précaution élémentaire. Passer la nuit là où des demi-humains risquaient de s'aventurer aurait été de la folie. Choisissant délibérément les passages les plus accidentés, Richard se mit en quête d'un site convenable. Quand il s'éloignait d'une piste, les gens optaient en général pour les chemins les plus praticables. En procédant autrement, on réduisait encore le risque d'être surpris dans son sommeil. Au pied d'une falaise de quelques 40 pieds de haut, Richard trouva le genre d'endroit qu'il appréciait. Étudiant le terrain, il n'y vit pas trace du passage d'animaux sauvages ou de bipèdes au moins aussi dangereux. Selon toute probabilité, Samantha et lui étaient les deux premières personnes qui s'aventuraient en ce lieu. En l'absence de grottes, il n'y avait aucune mauvaise surprise à redouter, comme des ours ou des loups, et il ne semblait pas y avoir de serpents. Richard coupa des branches et les disposa de manière à constituer le cadre d'une cabane à laquelle la falaise tiendrait lieu de mur du fond. Puis, il improvisa un toit et couvrit le tout de broussailles pour que son refuge ait l'air tout à fait naturel.
« Même en passant à côté, s'extasia Samantha, je ne verrai pas de quoi il s'agit. »
« C'est l'idée générale. En principe, dans des cas pareils, j'opte pour des tours de garde, mais je pense que nous n'avons rien à craindre. On dirait bien que personne n'est jamais venu jusqu'ici. Donc profitons-en pour dormir un bon coup. Demain, nous aurons besoin de toutes nos forces. »
« Je suis morte de fatigue. Dormir paraît très tentant. »
« Dans ce cas, entre chez toi, je t'en prie. »
« Nous n'allons pas faire un feu pour nous tenir chaud ?»«
Les feux de camp attirent les gens. Même quand on ne voit pas les flammes, on peut toujours sentir la fumée. » Tel qu'il est conçu, ce refuge est quasiment indétectable. Un feu indiquerait notre position aux demi-humains.
Samantha regarda autour d'elle. « Oui, c'est logique. Et si des animaux sauvages s'approchent ?»«
Je ne m'en fais pas pour ça. Ma magicienne me sauvera la mise. »«
J'espère que vous avez raison. »«
Ça se passera bien, tu verras. »«
Entre donc. »
Samantha dut ramper pour passer sous le toit incliné du refuge. Richard la suivit, puis il tira un épais treillis de branches sur l'ouverture. À l'intérieur de l'abri exigu, l'air était relativement sec et on n'y voyait rien. À tâtons, Richard chercha une bougie dans son sac, puis, toujours à l'aveuglette, il la donna à Samantha. « Tu peux utiliser ton don pour l'allumer ?» Il y eut une petite étincelle et la lumière jaillit, vacillante, mais bien réelle. Richard prit la bougie et la tint entre sa compagne et lui. « Tu peux te réchauffer les mains sur la flamme si tu veux. Cette nuit, il risque de faire froid. »
« Et si je faisais chauffer quelques pierres ? Si nous les tenons contre nous, elles nous garderont au chaud ?»«
Bonne idée !» admit Richard, qui n'avait pas pensé à cette solution qu'il connaissait pourtant.
« C'est efficace aussi. »
Délogeant du sol une pierre de la taille d'une miche de pain, il la confia à Samantha, qui posa les mains dessus et ferma les yeux pour mieux se concentrer. Quelques secondes après, elle lui rendit la pierre désormais brûlante.
« Je savais bien que tu me servirais à quelque chose, » plaisanta Richard. La jeune magicienne eut un petit rire.
Les deux voyageurs firent ensuite un repas composé de biscuits, de poissons séchés et de quelques noix. Un dîner fort simple que Richard trouva délicieux, sans doute parce qu'il aurait pu dévorer des cailloux tant il avait faim. Quand ils eurent fini de manger, Richard retira son manteau et l'étendit sur eux comme une couverture.
« Ça aussi, ça nous tiendra chaud. » « Désolé, mais une forêt n'est pas l'endroit idéal où dormir, surtout dans des conditions pareilles. »«
Je m'en fiche, Seigneur. Mon seul souci, c'est d'arriver à temps. Quand j'aurai sauvé ma mère, je pourrai dormir jusqu'à la fin de mes jours, si ça me chante. »
Richard souscrivait totalement à cette profession de foi. Quand il eut tiré son manteau jusque sous leur menton, Samantha se serra contre lui pour se réchauffer. La tête posée sur son épaule, elle s'accrocha à son bras comme à une planche de salut. Le sourcier garda le bras droit sur son giron, sa main posée sur la poignée de son épée. En cas de danger, ça lui ferait gagner du temps. Samantha dormait déjà, son souffle régulier ponctuant le léger bruit du crachin qui s'abattait sur le refuge. Mort de fatigue, Richard s'endormit comme une masse. Bien entendu, sa dernière pensée fut pour Callan.